VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 25 juillet 2017, en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Le département d'État américain dément que les États-Unis aient suspendu leur assistance militaire au Cameroun.
En République démocratique du Congo, la désignation de Joseph Olenga Koï à la tête du Conseil national de suivi de plus en plus contestée.
La France se dit préoccupée par la situation dans la région du Poule, au Congo-Brazzaville.
Réunion aujourd'hui près de Paris des rivaux libyens Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar sous l'égide du président Emmanuel Macron.
Le gouvernement israélien a retiré les détecteurs de métaux qu'il avait installés aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le département d'État américain dément les informations selon lesquelles les États-Unis auraient suspendu toute leur assistance militaire au Cameroun. Il précise que dans sa récente lettre au directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'ambassadeur Michael Rosa faisait allusion à des cas antérieurs dans lesquels Washington avait suspendu son assistance sécuritaire à certaines unités des forces de sécurité camerounaises en se fondant sur des informations crédibles concernant des violations des droits de l'homme.
Nous continuons d'entraîner, poursuit le département d'État, les unités jugées éligibles à une assistance sécuritaire conformément aux critères de la loi Leahy. Cette loi, explique le département d'État américain, a interdit à ce ministère ainsi qu'au Pentagone de fournir une aide militaire à des unités militaires étrangères qui violent les droits de l'homme.
Polémique à Kinshasa autour de la désignation de Joseph Olenga Koï à la tête du Conseil national de suivi de l'accord politique du 31 décembre 2016. L'opposant, leader de l'une des franges du rassemblement, est très loin de faire l'unanimité à ce poste. Contesté dès sa nomination par Vital Kamerhe et Jean-Pierre Lisanga Bonganga, c'est au tour du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et ses alliés de récuser M. Olenga Koï, ce qui risque de compliquer davantage le travail de ce qui devait être l'une des structures clés chargées de veiller au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après l'UNC de Vital Kamerhe, c'est au tour du Front pour le respect de la Constitution de rejeter la désignation de Joseph Olenga Koï à la tête du CENSA, organe chargé du suivi de l'accord politique signé le 31 décembre dernier sous l'égide de l'Église catholique. La plateforme politique que pilote le MLC dénonce le caractère irrégulier du processus de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et récuse la personnalité désignée. Le week-end dernier, quelques heures seulement après la désignation du président des FONUS et président du Conseil des sages de l'autre aile du rassemblement, l'UNC dont le leader Vital Kamerhe devait pourtant occuper l'une des vice-présidences affirmait déjà que la mise en place du bureau du CENSA était faite en violation de l'accord et que cela ne le concernait pas. À ce stade donc, seule la majorité présidentielle a salué la désignation de Joseph Olenga Koï, récusé désormais par deux de ses trois vice-présidents. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La France s'est déclarée préoccupée par la situation dans la région du Poule au Congo-Brazzaville. Le second tour des élections législatives est prévu dimanche et Paris lance un appel aux autorités de Brazzaville pour que ce scrutin se tienne dans toutes les circonscriptions. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le porte-parole du Quai d'Orsay a déclaré que la France reste préoccupée par la situation dans la région du Poule et ses conséquences sur le plan humanitaire. Paris appelle les autorités de Brazzaville à prendre les mesures nécessaires pour établir rapidement les conditions qui permettront la tenue des élections dans toutes les circonscriptions. Le parti au pouvoir est arrivé en tête du premier tour des élections législatives et locales du 16 juillet en remportant 70 des 151 sièges de la future Assemblée nationale. Le second tour est prévu dimanche. Les opposants se sont dit préoccupés par le fait qu'une bonne partie du Poule a été exclue du processus électoral. Le Poule a replongé dans la violence depuis la réélection contestée en mars 2016 du président Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir.
En Centrafrique, et nous vous le disions hier, un casque bleu du contingent marocain de la MINUSCA a trouvé la mort dimanche dans les violents accrochages qui ont eu lieu à Bangassou, dans le sud-est du pays, avec les groupes d'autodéfense. Trois autres casques bleus ont été blessés lors de cette attaque imputée aux milices anti-Balaka. Au micro de Félix Yepassis Zembrou, le porte-parole de la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, Vladimir Monteiro.
Ce casque bleu ainsi que ses compagnons se trouvaient au bord du fleuve pour se ravitailler en eau afin de répondre aux besoins humanitaires de la ville. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont essuyé des tirs des anti-Balaka. Un casque bleu en est mort, les autres ont été légèrement blessés. Tout au long du week-end, à Bandassou, il y a eu plusieurs attaques contre les casques bleus qui se trouvent dans la ville pour protéger les populations. Le contingent marocain en particulier, puisqu'il a été une nouvelle fois touché, mais également tous les casques bleus restent déterminés, que ce soit à Bangassou, dans le sud-est, touché par les violences ces derniers temps, ou ailleurs en Centrafrique. Les casques bleus restent donc déterminés et nous répondrons par rapport à cela. Cette agression ne restera pas impunie, mais nous agirons surtout pour protéger les populations, pacifier Bangassou et s'assurer que les populations puissent retourner chez eux et pour que la ville soit à nouveau sécurisée.
Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA.
Les frères ennemis libyens Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar se rencontrent aujourd'hui près de Paris sous l'égide du président français en présence du nouvel émissaire onusien pour la Libye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le programme de coordination de l'ONU contre le sida a besoin de 7 milliards de dollars pour aider à juguler ce fléau. Toute coupe supplémentaire risque de compromettre les résultats escomptés, estime-t-il. Éric Manirakiza a joint hier à Paris le patron de l'ONU sida, Michel Sidibé.
C'est un moment de paradoxe que nous vivons. Nous avons des résultats convaincants aujourd'hui du Swaziland, un pays qui était l'épicentre de la crise, plus de 30% de prévalence. Et voilà, ce pays montre aujourd'hui qu'ils peuvent contrôler l'épidémie. Ils ont doublé le nombre de personnes sous traitement en 5 ans. Ils ont pratiquement une suppression de la charge virale qui est au-delà de ce qu'on estimait. Mais c'est les pays en voie de développement qui augmentent leur contribution dans la lutte contre le sida. Pour la première fois, on a 57% des ressources qui proviennent des ressources domestiques. Par contre, nous constatons une baisse du financement des donateurs. C'est un paradoxe. Moralement, éthiquement, ce n'est pas acceptable lorsqu'on a les outils, lorsqu'on a les résultats, lorsqu'on a une solidarité globale avec une responsabilité partagée parce que les pays africains, dans la plupart des cas, augmentent leurs contributions. Ce n'est pas le moment de réduire les contributions internationales.
Michel Sidibé, patron de l'ONU-SIDA.
Le gouvernement israélien a retiré les détecteurs de métaux qu'il avait installés aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, une mesure de sécurité qui avait été suivie de violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens. Jean-Roger Dion.
La décision a été annoncée par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou après une intense mobilisation diplomatique internationale visant à empêcher une extension de la crise au-delà d'Israël et des territoires palestiniens. Le cabinet de sécurité israélien a accepté la recommandation de tous les organismes de sécurité de remplacer l'inspection au moyen de détecteurs de métaux par une inspection de sécurité basée sur des technologies avancées et sur d'autres moyens, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Il n'était pas possible de savoir immédiatement quelle était la nature des technologies avancées en question, mais des caméras ont été installées cette semaine à certaines entrées du site. On ignore également si ces nouveaux dispositifs seront acceptés par les Palestiniens.
L'Arabie saoudite et ses alliés arabes ont annoncé aujourd'hui qu'ils inscrivaient sur leur liste noire, en les qualifiant de terroristes, 9 organisations de bienfaisance au Yémen et en Libye, ainsi que 9 personnes directement ou indirectement liées aux autorités qataries. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont suspendu en juin leurs relations avec le Qatar en l'accusant de financer l'extrémisme islamiste, une accusation que Doha a rejetée à de nombreuses reprises.
Jared Kushner, le gendre et principal conseiller du président Donald Trump, a dit hier qu'il n'a pas commis de collision avec la Russie ou connu quelqu'un au sein de la campagne qui l'ait fait en rapport avec la présidentielle de 2016. C'est ce qu'il a déclaré hier à la Maison-Blanche après avoir répondu à des questions lors d'une séance à huis clos avec les enquêteurs de la commission sénatoriale du renseignement. M. Kushner doit se présenter aujourd'hui devant la commission de la Chambre des représentants, la commission du renseignement.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Dans un rapport publié lundi, la Banque mondiale relève l'excellente performance de la Côte d'Ivoire en 2016, regrettant toutefois que le pays n'exploite pas les opportunités liées à l'égalité des genres, qui lui permettraient de gagner 6 milliards de dollars. Avec une meilleure éducation, une meilleure santé et représentativité sur tous les plans, les femmes offriraient plus de ressources au bénéfice de l'économie, a déclaré Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Le Gabon se dote d'un cadre réglementaire pour la surveillance des forêts. Dorénavant, les activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité forestière feront l'objet d'une surveillance satellitaire opérée par l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Le Sénégal peut désormais réaliser son train express régional grâce à un financement de 120 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement. L'accord est intervenu après une promesse de financement de 197 milliards de la Banque islamique de développement et 133 milliards d'aides françaises. Le gouvernement contribuera à hauteur de 124 milliards. Le projet comprend la construction de terrains sportifs et d'infrastructures marchandes et la formation des jeunes au métier du chemin de fer.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le troisième tour préliminaire de la Ligue européenne des champions se joue aujourd'hui.
Tout à fait, Idrissa, l'opposition entre l'AEK Athènes et le CSKA Moscou et la rencontre Partizan Olympiakos représentent les deux principales affiches du jour. À suivre également Karabag FK de l'Azerbaïdjan contre le FC Sheriff Tiraspol de Moldavie. Le FC Bucarest de la Roumanie sera opposé au Victoria Plzeň de la République tchèque. Le Slavia Prague de la République tchèque également sera aux prises avec le Bate Borisov de la Biélorussie.
Revenons sur les temps forts de la journée d'hier au jeu de la francophonie.
Oui, l'Ivoirien Arthur Cissé, déçu d'avoir manqué de près la médaille d'or des 100 mètres hommes, il a été dévancé in extremis par le Seychellois Dylan Sikobo qui l'a remporté après photo finish en 10 secondes 33. Chez les dames, la Congolaise Natacha Ngoy remporte la médaille d'or en 11 secondes 53. Le Maroc domine les 800 mètres hommes et dames. Malika Kawi a enlevé la médaille d'or devant Noélie Yariko. Son compatriote Oussama Nabil a fait pareil chez les hommes en 1 minute 46 secondes devant celui annoncé pourtant favori, l'autre Marocain Mustapha Ismaïla. Le Royaume chérifien décidément la fête avec un autre doublé au 3000 mètres steeple hommes, argent et or. Au lancer de poids, Franck Elamba Owaga du Congo s'est imposé en finale avec un jet de 19 mètres 99. Le Sénégalais Amadou Ndiaye, médaillé d'argent sur 400 mètres haies. Victoire sénégalaise également en lutte libre avec Adama Diata qui a décroché la médaille d'or dans la catégorie freestyle des moins de 61 kilos. En basketball chez les dames, la Guinée a battu le Niger 45-42.
Eric Bailly suspendu par l'UEFA pour 3 rencontres européennes.
Effectivement, l'Ivoirien de 23 ans est coupé de cette sanction après son carton rouge direct reçu en demi-finale retour de l'Europa League contre le Celta Vigo. Il lui est reproché d'avoir attrapé un adversaire par la gorge le 11 mai dernier. Il a déjà purgé un de ses trois matchs de suspension lors de la finale de C3 remportée par Manchester United contre l'Ajax 2-0. En plus de la Super Coupe d'Europe contre le vainqueur de la Ligue des Champions, Bailly manquera le premier match de poule de son équipe lors de la prochaine Champions League.
En football, Benjamin Mendy devient le défenseur le plus cher de l'histoire.
Oui, c'était annoncé, c'est désormais officiel. Après plusieurs semaines de négociations, Benjamin Mendy s'est officiellement engagé avec Manchester City. L'international français a signé un contrat de 5 ans tandis que le club anglais a déboursé 57,5 millions d'euros pour s'attacher les services du Monégasque.
Le le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Grève des médecins et infirmiers en République démocratique du Congo. Ils se plaignent de la perte de plus de la moitié de leur pouvoir d'achat suite à la dépréciation du franc congolais, la monnaie nationale. En négociation actuellement avec le gouvernement, médecins et infirmiers du pays promettent de radicaliser leur mouvement au cas où l'on ne prendrait pas en compte leurs revendications. Dans les hôpitaux publics, la prise en charge des malades est très perturbée, nous dit Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Entamé depuis le vendredi dernier dans les hôpitaux publics de Kinshasa, le mouvement de grève des médecins se poursuit en ce début de semaine. Ils ont même été rejoints par les infirmiers qui, comme eux, protestent contre la baisse de leur pouvoir d'achat sur fond de chute du franc congolais. Le docteur Mankoy Badjoki est le président du syndicat national des médecins.
La grève commence par un service minimum. Le service minimum sera évalué dans 72 heures. Les salles d'urgence continueront à fonctionner comme avant. Nous allons attendre d'abord si nous nous réunissons avec la partie gouvernementale et les conclusions qui sortiront de ces concertations qu'on va soumettre à son excellence Monsieur le Premier ministre, et pour qu'il en prenne acte.
Aux cliniques universitaires, sur le campus de l'université de Kinshasa, le mot d'ordre est respecté. Mais le docteur Eric Mukenge promet une radicalisation du mouvement si les cahiers de charges des médecins n'est pas pris en compte par le gouvernement.
Le mot d'ordre a été suivi à 100% en clinique universitaire. Nous avons commencé avec le service minimum. Donc les urgences sont maintenues, les permanences et les gardes sont assurées. Et puis tous ceux qui étaient programmés pour être opérés les seront aujourd'hui. Et on va évaluer l'action qui a été menée et voir comment réorienter la grève si le gouvernement ne répondait pas encore à nos préoccupations. Donc au cahier des charges qui a été déposé par le CINAMED.
Comme les médecins, les infirmiers ont entamé leur mouvement de grève ce lundi. Comme les médecins, ils disent avoir perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat suite à la perte par le franc congolais de 55% de sa valeur depuis le début de l'année 2017. Dans les hôpitaux, les victimes se plaignent déjà. Ses parents ont passé plusieurs heures avec leurs enfants malades à l'hôpital de Kalembelembe en attente d'une assistance médicale.
Je suis là depuis longtemps. Jusque là, il n'y a pas de médecin. On est là comme ça, debout, en train d'attendre. Même demander qu'est-ce qui se passe. Et de mon côté, c'est vraiment pénible pour nous et les enfants. Alors, ce n'est pas quelque chose de bien que ça continue comme ça. Ce n'est pas trop bien. Pour nos enfants, c'est très, très capital.
Je suis là il y a longtemps avec un enfant qui fait la diarrhée, vomissement. On ne reçoit pas. On traîne, je ne sais pas pourquoi, on dit qu'il y a soi-disant grève ou comment. Mais c'est déplorable, notre pays. C'est malheureux pour nos enfants. Ce n'est pas correct de vous quitter dans un centre privé où on traitait l'enfant. Vous arrivez, on vous reçoit dans 5 minutes, mais on vous dit qu'allez-y là-bas, on fait les examens approfondis. Vous arrivez là plus de 4 heures, vous n'êtes pas reçu. Nous sommes là dans les couloirs. Regardez les parents, vous trouvez que c'est normal. Ils n'ont qu'à démissionner et partir.
Aucune réaction pour le moment de la part du gouvernement. Le ministre poursuit toutefois les négociations avec les syndicats des corps concernés. Mais au cas où ces négociations n'aboutissaient pas, médecins et infirmiers promettent une radicalisation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Burundi, les habitants de Bujumbura font face depuis des mois à une pénurie d'électricité qui les force à changer leurs habitudes pour mieux gérer la situation. Reportage de Christophe Kourounziza dans la capitale burundaise.
30 minutes, une ou deux heures de disponibilisation de l'électricité dans mon nombre de quartiers de Bujumbura par jour, une ville devenue fantôme la nuit par manque de courant. Ce jeune homme de 28 ans habite le quartier populaire de Buyenzi à majorité musulmane. Son quartier peut passer trois jours sans électricité, une raison qui l'a amené dans le quartier de Rohero, proche, pour relier son travail de mémoire de fin d'études universitaires, alors qu'il était capable de le faire à la maison si le courant était disponible. Témoignage.
Ici, où vous me trouvez, je suis en train de réaliser mon travail de fin d'études d'université. Puis j'ai l'électricité là-bas au domicile. Je peux écrire à la maison. Mais suite à l'absence de l'électricité, je me rends au cyber pour faire réaliser mon travail. Ça me cause beaucoup de problèmes parce que nous payons beaucoup d'argent. Quand on est en train de réaliser les activités domestiques pendant la nuit, ça me cause beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de l'éclairage. Aussi, les enfants veulent jouer à la maison, mais suite à l'obscurité, les enfants restent au lit.
Dans les zones de Moussaga, Kamenge, Ngagara, Nyakabiga et Jabé, des habitants se plaignent qu'il leur est difficile de se présenter au travail avec des habits repassés, car le délestage ne dure que quelques minutes journalièrement. Et les conséquences sur leur vie au quotidien sont néfastes, comme le témoignent ses parents de 4 enfants qui ne boivent plus de l'eau froide.
En fait, nous allons retourner dans le système classique, là où on allait s'habiller des habits qu'on a mis sous les matelas, comme on le faisait à l'interne. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que les enfants vont étudier comment? Si vous avez soif, vous ne pouvez pas boire de l'eau chaude. Nous avons conservé les frigos.
D'autres habitants de la mairie de Bujumbura demandent que le délestage électrique se fasse d'une manière équitable, car les quartiers des personnes assez aisées comme celui de Kiriri, près des hauteurs surplombant la capitale, n'en manquent jamais. La vie de cette femme a changé depuis plusieurs mois.
On faisait des stocks, on mettait au frigo pour une période donnée. Maintenant, ce n'est plus possible. On doit passer au marché tous les jours. La gestion du ménage en général est perturbée. Même pour les enfants, il y en a qui s'amusent avec la télévision. C'est vraiment difficile.
Beaucoup d'habitants de la capitale s'indignent de cette situation alors qu'ils affirment payer annuellement les impôts. Ils digèrent très mal comment leur vie au quotidien a changé par manque de courant électrique. Mais les autorités burundaises ont indiqué à la radio-télévision nationale que ce manque de courant électrique sera comblé le mois d'août prochain. Wait and see, comme disent les Anglais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Côte d'Ivoire, de nombreux habitants dénoncent la cherté du coût de la vie. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a procédé à l'installation d'un conseil national de lutte contre la vie chère. D'Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
Le 16 juillet dernier, le premier ministre ivoirien Amadougon Koulibaly procédait à l'installation officielle du Conseil national de lutte contre la vie chère, une instance chargée, dit-il, de mobiliser tous les moyens en vue d'assurer de meilleures conditions d'accès aux produits de consommation courante. Depuis des années, les Ivoiriens se plaignent du coût très élevé des produits de première nécessité. Michel Okwadio est couturier et père de 3 enfants. Il dit éprouver de grandes difficultés pour joindre les deux bouts.
Chèrement, la vie est chère. Maintenant, tout est augmenté maintenant. Les loyers, la nourriture, les transports, même, c'est pas facile. La vie est très chère. Il y a 3 enfants et une femme. Bon, là, on essaie de faire le peu que Dieu nous donne. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Si c'est dans la grâce de Dieu, on vit. Sinon, c'est pas facile. C'est dur, c'est très dur.
Très dur pour joindre les deux bouts, pour se nourrir, se loger et se déplacer. Le Conseil national de lutte contre la vie chère pourra-t-il apporter des solutions concrètes aux angoisses des Ivoiriens? Marius Komoué est le président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Il dit ne pas se faire d'illusions.
Le Comité national de lutte contre la vie chère ne va pas initier des politiques de production locale de riz. Un comité pour se réunir pour évaluer naturellement la cherté de la vie et faire des propositions à qui? Mais les gouvernants savent ce qu'ils savent. Ils savent que le marché est cher. Est-ce que c'est le Comité de lutte contre la vie chère qui est la structure, qui est distributrice, qui détient naturellement le monopole dans le secteur de distribution? On ne peut rien attendre d'un comité national futur de lutte contre la vie chère.
Pour Marius Komoui, il faut plutôt mettre en place de véritables politiques en vue de l'autosuffisance alimentaire.
Il faut aujourd'hui demander au ministère de l'Agriculture de s'engager dans une véritable politique permettant naturellement à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en matière de produits vivriers. Pareil pour le ministère de la production animale. Mais il n'y a pas que ça. La vie chère, c'est également l'école, c'est également le transport, l'électricité et l'eau. C'est le coût des loyers, le coût des matériaux de construction des loyers qui font que le coût des loyers sont exorbitants.
L'une des explications de la cherté du coût de la vie serait aussi la multiplication des taxes perçues par l'État. Smaro Ben Mfali, président d'une autre organisation de consommateurs et membre du Conseil national de lutte contre la vie chère.
Il faut faire très attention avec les différents taxes que l'État crée et prélève régulièrement et de façon souvent abusive sur les entreprises et les opérateurs économiques.
Même s'ils disent ne pas attendre grand-chose de cette structure, les Ivoiriens espèrent tout de même une baisse du coût de la vie. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le Freedom of Information Act, ou la loi sur la liberté d'information, a 50 ans ce mois-ci. Reconnaissant le droit des citoyens à l'information, cette loi est fondée sur l'idée radicale d'assurer la transparence des actes gouvernementaux. Un reportage d'Arlita Dunelari, repris ici par Michel Joseph.
Le principe du Freedom of Information Act est simple. Toute personne ou entité peut soumettre une requête pour avoir accès à divers documents gouvernementaux. Cette demande ne peut être rejetée que dans 9 cas précis, dont des considérations liées à la vie privée ou à la sécurité nationale. C'est donc un outil précieux pour Jason Leopold, journaliste d'investigation du site internet BuzzFeed, joint par Skype.
I know from first-hand experience.
J'ai l'expérience personnelle d'avoir demandé et obtenu des documents de diverses agences gouvernementales, exposant des méfaits, du gaspillage, de la fraude et des abus.
C'est une demande de Jason Leopold sous le Freedom of Information Act qui a forcé le département d'État américain à publier l'année dernière des milliers de courriels d'Hillary Clinton. Ces documents ont révélé que Mme Clinton, alors chef de la diplomatie américaine, utilisait un serveur privé, un sujet qui a fait l'objet d'une intense couverture médiatique l'année dernière pendant la campagne. Malgré ces 50 ans d'existence de la loi américaine sur la liberté d'information, la tendance au secret s'est accentuée au sein des institutions gouvernementales. Les requêtes rejetées dans le cadre du Freedom of Information Act ont donné lieu à de nombreuses plaintes. Adam Marshall, du Comité des reporters pour la liberté de la presse.
Les données à notre possession montrent qu'au cours de la dernière décennie, le niveau de secret mesuré par le nombre d'exemptions demandées par le gouvernement et le nombre de requêtes rejetées n'a cessé de croître.
Les États-Unis ont encore du chemin à faire pour honorer leur engagement à assurer la transparence gouvernementale, estime Adam Marshall, assurant que les efforts se poursuivront pour faire évoluer la situation.
The journalists here and the civil society groups are so committed to FOIA.
Les journalistes et les groupes de la société civile sont déterminés à faire respecter la loi sur la liberté d'information, si bien qu'en dépit de la frustrante lenteur du processus, il y a une grande énergie et un grand engagement à faire prévaloir la loi et à l'améliorer.
50 ans après son adoption, le Freedom of Information Act des États-Unis, la loi sur la liberté d'information demeure un important outil pour les journalistes dans leurs efforts pour informer le public et demander des comptes au gouvernement.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Why do you keep on staring at mirror, it ain't fair.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.